comparaison avec John Rawls. On l'a vu dans l'émission précédente, la théorie de la justice de John Rawls a donné lieu à des débats passionnés. Le philosophe de l'égalitarisme libéral a été contesté de plusieurs côtés. Par les libertariens comme Robert Nozick, qui l'ont accusé de vouloir collectiviser les talents individuels et refuser ses justes récompenses au mérite. Par les communautariens qui ont jugé que son système ne faisait pas leur juste place aux identités et aux loyautés collectives qui donnent sens à la vie concrète des communautés. Mais toutes ces critiques partageaient largement en fait les idées principales de Rawls lui-même. Et pour cause, ce philosophe américain a imposé son propre cadre conceptuel à toute réflexion portant sur la justice sociale durant plusieurs décennies dans le monde anglo-saxon. Les concepts fondamentaux et les buts de la philosophie normative tels que Rawls les a formulés s'imposaient même à ses détracteurs. C'est ce qu'écrit une jeune universitaire de Harvard, Katrina Forrester, dans un livre qui vient de paraître « In the Shadow of Justice ». Rawls, écrit-elle, a construit une architecture philosophique d'une grande flexibilité à une idéologie, celle du libéralisme moderne. Or, ce libéralisme est aujourd'hui attaqué de toutes parts. Par la vague populiste qui prétend imposer au peuple une même conception du bien, et aussi par une nouvelle gauche qui accuse le principe de différence de Rawls d'avoir servi à légitimer les extraordinaires inégalités de revenus et de patrimoine qu'on observe depuis une vingtaine d'années. La théorie de la justice de Rawls, toujours selon Forrester, porte les traces de l'époque où elle a été conçue, à savoir le consensus de l'après-guerre. Une période de très forte croissance et d'optimisme libéral, où l'idéal de la social-démocratie tendait à s'imposer même aux États-Unis. Or, au moment où le livre est paru, donc en 71, les réalités politiques et sociales auxquelles il devait ses lignes directrices étaient déjà en train de chanceler. Sous le coup notamment des néolibéraux dont les idées allaient triompher en politique dès la fin des années 70. Et le type de consensus raisonnable que prônait Rawls était en train d'être mis à mal par de nouveaux mouvements sociaux qu'il n'avait pas vu venir. Sa théorie a ainsi fourni, écrit Katrina Forrester, je la cite, « une consolation aux libéraux alors même que le monde de leurs rêves était en train de disparaître ». Rawls est-il dépassé ?
Now, this year is something of an experiment, and I may find out that it's not a good idea, that is, spending so much time on a book that I wrote myself. I know when I was an undergraduate, I was very unhappy that professors who talked about their own book, and I think probably at that time I was right rather than now, but in any case...
France Culture, avoir raison avec John Rawls, Brice Couturier.
Alors John Rawls est-il ou non encore d'actualité? Ses outils conceptuels peuvent-ils encore nous servir un demi-siècle après la publication de sa théorie de la justice? C'est ce dont nous allons débattre aujourd'hui avec Catherine Audard. Bonjour Catherine Audard.
Bonjour.
Vous êtes professeure à LSE, London School of Economics, et vous êtes la traductrice de ce fameux livre. Vous venez de publier justement un ouvrage de défense de John Rawls qui s'appelle tout simplement « Actualité de John Rawls, la démocratie et la raison ». Magali Besson, vous êtes professeure de philosophie politique à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et vous avez notamment publié « Sans distinction de race, point d'interrogation », une analyse critique du concept de race et ses effets pratiques. Alors une première question pour vous, Catherine Audard. Les idées, peut-on dire, avec Katrina Forrester que je viens de citer, que les idées de Rawls datent aujourd'hui d'une époque révolue, celle de la Great Society de Lyndon Johnson, c'est-à-dire simplement la fin des années 60, et qu'elles seraient en porte-à-faux avec les défis qui nous sont lancés aujourd'hui?
Oui, bien sûr. C'est une œuvre qui doit énormément à ce que nous appelons en France les Trente Glorieuses, mais aussi aux nouveaux mouvements sociaux des années 60, 70, de défense des droits des Noirs, etc. Donc, et la guerre du Vietnam. Donc, il appartient à une époque qui est dépassée, que je caractériserais comme la révolution des droits de l'homme, c'est de l'après-guerre, c'est-à-dire le fait que les droits de l'homme sont devenus, et la justice sont devenus les thèmes, vraiment les thèmes absolument fondamentaux, ce qui n'était pas le cas dans l'entre-deux-guerres, bien sûr. Donc, la justice, pas simplement au sens de la justice sociale, mais la justice au sens de la défense des droits fondamentaux. Donc, c'est vrai que c'est une œuvre qui paraît appartenir à un autre monde. Et en fait, quand Fukuyama écrivait son livre, c'était un peu l'idée que les idées de Rawls étaient devenues tellement banales, et c'était même pas les idées de Rawls, c'était les idées de la majorité des gens décents, comme on dit, decent en anglais, un peu partout dans le monde, qui étaient en faveur d'un libéralisme modéré par des politiques sociales adéquates, si vous voulez. Voilà. Donc il y avait une espèce de consensus, et c'était un monde qui paraissait dominant en quelque sorte à cause de la chute du communisme en 89. Donc c'est tout à fait juste de dire que c'est une pensée qui appartient à un autre monde que celui que nous vivons depuis, disons, les événements fondateurs du 21e siècle, c'est-à-dire
l'attentat du 11 septembre et la crise de 2008.
Absolument, la crise de 2008, l'élection, la Brexit, l'élection de Trump, la montée des populismes. On se retrouve, enfin, pour beaucoup, et pour moi, je partage cette idée, nous nous trouvons maintenant dans une période qui ressemble plus aux années 30, à l'entre-deux-guerres qu'à autre chose, qu'à l'après-guerre, ça c'est sûr. Donc c'est un autre monde optimiste. Rawls parle d'utopie réaliste peut-être, mais d'utopie quand même. Donc on peut l'accuser de n'avoir absolument pas prévu les catastrophes qui se sont produites au XXIe siècle. Donc oui, et au fond, dans la mesure, enfin, on n'a peut-être pas assez souligné dans les émissions précédentes, mais dans la mesure où les idées de Rawls, entre guillemets, ne sont pas du tout les siennes, à lui en particulier, mais simplement une mise en forme et une sorte d'herméneutique de ce que pense la majorité des gens en matière de démocratie, de justice sociale, etc. Et comme Michel Forcé l'a très bien montré dans plusieurs ouvrages sur le sentiment de la justice sociale chez les citoyens français ou en Europe, ce sont des sentiments largement partagés, si vous voulez, jusqu'à une époque récente, mais même encore maintenant. Michel Forcé vient de publier son nouveau livre là-dessus. Donc, c'était des idées qui paraissaient acquises.
Et qui ne le sont plus.
En fait, et qui ne le sont plus, alors peut-être pas dans la majorité de la population, mais en tout cas au niveau des transformations politiques et des régimes des partis en ce moment, oui, bien sûr.
Donc, on peut dire que effectivement les idées de Rawls c'est la synthèse des idées qui étaient en vogue dans son époque à la fin des années 60, mais on peut aussi dire que les idées de Rawls, en particulier cette idée qu'il faut viser l'égalisation des situations sociales ex ante en compensant les inégalités entre les individus pour les mettre en situation de réaliser leurs propres projets plutôt que de corriger leurs échecs ex poste, et cette idée elle a eu son heure de gloire, et c'était dans les années 90. Après tout, même l'idée de stakeholders Society de Bruce Ackerman, qui vient vraiment de la démocratie de propriétaire de Rawls. C'est Will Hutton, qui était un des conseillers de gauche de Blair, qui l'a prôné pendant les années 90. Donc, le blairisme et le Bill Clintonisme étaient la mise en œuvre de pas mal d'idées de Rawls. Est-ce que est-ce que c'est pas une époque qui est vraiment très loin derrière nous aujourd'hui, alors que les inégalités ont explosé, surtout aux États-Unis, et que les idées de Blair et de Bill Clinton aujourd'hui paraissent terriblement datés.
Absolument. Alors, moi, je dirais que effectivement, la démocratie sociale est en crise, mais en même temps, l'épidémie actuelle du Covid, où l'on voit les États, même les gouvernements conservateurs, comme celui de Boris Johnson ici ou de Trump aux États-Unis, mettre énormément d'argent dans la protection de l'emploi, dans la santé, etc., c'est quand même un pied de nez au néolibéralisme, ce qui se passe en ce moment, et surtout de voir à quel point les gouvernements les plus conservateurs et les plus populistes ont échoué à gérer la crise de la pandémie. Donc, vous voyez, les idées, comme je le disais, c'est-à-dire cet espoir de réconcilier la justice sociale et la prospérité économique, ces idées reprennent de l'actualité absolument en ce moment, de façon tout à fait étonnante, oui.
Une question pour Magali Besson. Le principe de différence qu'on a expliqué au cours des émissions précédentes, je ne vais pas recommencer, qui veut que simplement les seules inégalités tolérables soient celles qui profitent également aux moins favorisés. Hein, pour la résumer simplement, cette idée et ce principe de différence, il avait tout à fait son sens à l'époque où les écarts de revenus étaient relativement faibles, ce qui était le cas dans les années 60 aux États-Unis et puis dans toutes les sociétés libérales. Mais ces inégalités, elles ont explosé et en particulier aux États-Unis. Comme l'a fait remarquer Philippe Van Paris, si on augmente de 10% les revenus des plus riches aujourd'hui en même temps que de 10% les revenus des plus pauvres, aux États-Unis, on obtiendrait une mendicité véritablement pour les pauvres et des fortunes encore plus extravagantes pour les riches. Donc le principe de différence, il a pu servir à justifier, à légitimer un écart entre les revenus et les patrimoines qui est devenu délirant. Est-ce que c'est pas une des limites de la pensée de Rawls?
Merci, bonjour. Je ne pense pas que le principe de différence est directement l'effet que vous venez de rappeler, qui est un effet économique. Ce qui me semble intéressant, en revanche, par rapport à ce que disait aussi Catherine Audard à l'instant, c'est en effet que la pensée de Rawls s'est développée, en tout cas la théorie de la justice, hein, publiée en 71, s'est développée dans les années 1960 dans le contexte de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Et on a, à partir des années 80-90, une espèce de naissance de nouveaux mouvements sociaux, notamment les mouvements militants pour la parité des femmes, qui a correspondu par ailleurs avec un enjeu politique et théorique différent, donc qui, à mon avis, n'a pas dépassé la pensée de Rawls, ou plutôt l'a dépassé en partant d'elle, et parce que Rawls a fourni lui-même les outils pour réfléchir de manière différente à l'arrivée de nouveaux, peut-être, ou de la prise de conscience de nouveaux groupes désavantagés dans la société. Et je pense en effet aux minorités sexuelles, ethniques, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a à partir des années donc 90 et au tournant des années 2000, une réappropriation de la théorie de la justice qui justement déplace la question de la justice strictement distributive, celle qui concernerait l'idée qu'il y aurait des biens sociaux ou des capacités ou des ressources ou des avantages à distribuer, un X à distribuer. Et puis si on trouvait le bon critère de distribution, eh bien la société pourrait être parfaitement juste. Et le tournant des années 2000 s'est mis à mettre l'accent sur autre chose que la stricte distribution, mais ce qu'on a pu appeler l'égalité relationnelle, en insistant sur le fait que une société parfaitement juste ne serait pas réalisée simplement s'il y avait une égalité de ressources ou de X entre les membres de cette société, mais une société parfaitement juste requiert une certaine qualité de relation entre les membres de cette société, qualité de relation qu'on a pu penser sous deux grandes familles, une plus du côté de la théorie critique, une plutôt du côté de la théorie normative analytique, qui sont la reconnaissance et le respect. Et donc à partir des années 2000, c'est vraiment la théorie de la justice comme prenant en compte les relations de reconnaissance et de respect entre les membres de la société qui s'est mise à s'imposer. Et encore une fois, ce qui est intéressant, à partir de suggestions faites par Rawls lui-même, tant dans la théorie de la justice que dans le libéralisme politique, que dans la justice comme équité.
Et Magali Besson, au moment où Rawls publie Théorie de la justice, les mouvements sociaux qui étaient massifs aux États-Unis, c'était les syndicats de salariés qui ne faisaient pas de différence entre leurs membres blancs ou noirs. Et aujourd'hui, on a affaire à quelque chose de tout à fait différent. Les syndicats pouvaient avoir une puissance, avaient une très grande puissance aux États-Unis. On l'a oublié aujourd'hui quand on voit dans quel état ils sont, parce que la croissance était soutenue, très soutenue, parce que les revenus progressaient rapidement, parce que la classe moyenne américaine croissait, et il y avait un consensus autour du modèle. Mais aujourd'hui, et puis surtout les minorités ethniques exigeaient l'égalité de traitement. Aujourd'hui, on a affaire à une espèce de différentialisation. Toutes les minorités réclament un traitement spécifique qui fasse place à leurs revendications particulières et à une histoire particulière. On est donc dans un contexte intellectuel très différent de celui dans lequel Rawls travaillait.
Oui, le contexte intellectuel, vous avez entièrement raison, est indiscutablement très différent. Néanmoins, là encore, pour reprendre un travail très important qui est paru en 1989, l'ouvrage de Suzanne Moller-Hodkin, Justice, Gender and the Family, dont il faut noter qu'il a été traduit en français, lui aussi avec un grand décalage, hein, puisqu'il n'a été traduit en français qu'en 2008, presque 20 ans après sa parution. Donc dans l'ouvrage Justice, Genre et Famille, Suzanne Moller-Hodkin montre que, là encore, on peut mobiliser le paradigme rawlsien et l'idée du principe de différence rawlsien pour faire entrer la justice dans la famille et donc pour traiter les inégalités de genre que Rawls laisse, disons d'une certaine manière, de côté, hein, en estimant que tant qu'une forme de famille existera, au fond, l'égalité réelle ou l'égalité équitable des chances ne pourra jamais être parfaitement réalisée. Et Suzanne Moller-Hodkin, qui est par ailleurs une étudiante de Rawls, reprend la théorie de la justice, reprend toute l'architecture pour dire non, il y a avec Rawls, au-delà de Rawls, des outils pour traiter quelque chose qui désormais ne peut pas être laissé de côté, qui est les inégalités de genre dans la société américaine. Et donc on est dans les années 1980, on pourrait dire qu'en 2020, ces inégalités non seulement sont toujours là, mais comme l'a dit Catherine Audard tout à l'heure, hein, la crise de la Covid a montré, hein, a visibilisé de manière assez flagrante et frappante à quel point ces inégalités se sont peu résorbées. Et l'idée de Hodkin, c'est d'intégrer la famille à l'ordre politique, de penser la famille avec Rawls, mais en allant encore plus loin, comme essentiellement une institution politique, et donc évidemment pas une donnée naturelle, pour y promouvoir les mêmes normes d'égalité que celles que le contrat rawlsien permet de poser dans l'ordre public, dans l'ordre politique.
Donc on peut continuer...
Et si l'on considère...
Oui. Pardon, excusez-moi, je vous interrompis à tort. Ah, et si on considère,
il faut en tout cas penser la famille comme une institution politique dans laquelle des normes d'égalité peuvent être mises en place et elles peuvent l'être grâce à l'outil qu'est le contractualisme, c'est-à-dire à la procédure que Rawls a mise en place, la procédure du voile d'ignorance qui permet ensuite de formuler les principes de justice.
J'ai affaire à deux défenseuses de John Rawls, Catherine Audard et vous, Magali Besson. Je vais essayer une dernière fois de vous mettre en difficulté en vous posant la question suivante, Magali Besson. Les libéraux égalitariens, dont Rawls fait partie tout de même, avaient tendance à mettre en avant toujours des solutions institutionnelles aux injustices et aux inégalités du moment. Les injustices passées, elles, n'étaient pas prises en compte. Et les arguments qui s'appuyaient, par exemple, sur des revendications historiques étaient rejetés. Elles étaient absente du système de Rawls. Ainsi, par exemple, les exigences de réparation pour l'esclavage et autres injustices historiques. Ça, c'est pas dans Rawls. Comment pouvez-vous le penser, vous, à partir de Rawls quand même?
C'est une excellente question, je vous remercie. Alors là, je pense que pour répondre, il faut saisir un point dont vous avez parlé déjà dans une des émissions précédentes, mais qu'il faut peut-être rappeler ici. C'est la distinction que fait Rawls lui-même, et là encore, hein, on part à nouveau de Rawls avec lequel on ne peut pas ne pas penser aujourd'hui. La distinction que fait Rawls dans le paragraphe 39 de la théorie de la justice entre une théorie idéale et une théorie non idéale. Et Rawls explique dans ce paragraphe que lui se situe du côté d'une théorie idéale de la justice, c'est-à-dire qu'il pense les principes de justice qui devraient gouverner une société juste. Si les individus ou les membres de cette société avaient une condition de ce qu'il appelle obéissance stricte, c'est-à-dire une tendance a priori à obéir, à suivre les principes de justice, et pour penser donc, alors Catherine Audard l'a mentionné, hein, pour penser de manière un peu utopiste vraisemblablement cette société idéale. Et plusieurs commentateurs, plusieurs étudiants de Rawls, là encore, et c'est ça qui est intéressant, ont souligné que il était délicat de formuler des principes de justice qui devraient s'appliquer à des individus rationnels et raisonnables et dans une société dans laquelle l'injustice n'existerait pas déjà. Et ils ont estimé que on ne pouvait arriver là qu'à formuler des principes de justice, au fond, inutile ou contre, peut-être même contre-productif pour arriver à améliorer notre société, où d'une part l'injustice existe déjà pour les raisons historiques que vous venez d'évoquer et bien d'autres, et où les individus ne sont pas tous a priori rationnels et raisonnables et disposés à obéir aux principes de justice. Vous aviez mentionné dans une émission précédente la question du free rider, hein, et on ne peut pas ne pas considérer que
le surfeur de Malibu.
Nous pourrions...
Le surfeur de Malibu, pardon.
Voilà, le surfeur de Malibu, exactement. Et les partenaires sous le voile d'ignorance connaissent bien les règles de la psychologie et savent que nous savons que nous avons tous tendance, si nous le pouvons, à éviter de nous appliquer à nous-mêmes les règles que nous aimerions appliquer aux autres. Et donc, dans cette mesure-là, dans la mesure où nous vivons dans un monde non idéal, plusieurs commentateurs, alors je pense notamment à Amartya Sen, hein, qui est une des personnes importantes sur ce plan-là, mais aussi Elisabeth Anderson, qui a été une doctorante de Rawls, ont souligné qu'il vaut mieux penser de manière non idéale, c'est-à-dire partir de la réalité des dysfonctionnements et des injustices actuelles, et à partir de là, monter en généralité ou en théorisation pour formuler depuis les injustices des principes qui pourraient nous permettre de vivre ensemble dans une société juste. Et dans ce cas, en effet, il est possible, Charles Mills, Elisabeth Anderson notamment, ont proposé l'idée que un principe de réparation pourrait avoir la même portée normative que le principe d'égale liberté, le principe d'équité d'équitable égalité des chances ou le principe de différence.
Mais il n'est pas dans Rawls, hein, ce principe nouveau.
Et il n'est pas dans Rawls, absolument.
Catherine Audard, autre question. La lutte des classes est totalement absente chez Rawls. Il pensait qu'on pouvait se mettre d'accord, disons, entre gens rationnels et de bonne compagnie, avec le voile d'ignorance, qu'on pouvait se mettre d'accord sur la société idéale. Il pensait aux injustices, aux inégalités, mais il pensait pas en termes de classe, véritablement. Vous me direz, c'était la théorie de la fin de l'histoire. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les développements récents dans nos sociétés libérales avancées montrent qu'il y a un grand retour de la lutte des classes, que certains partis de gauche... regardez ce qui s'est passé au Labour avec Corbyn. Il y a des tendances au sein des partis de gauche aujourd'hui qui sont beaucoup plus radicales que l'époque où Rawls écrivait. Et puis nous avons évidemment le défi à faire au défi populiste qui prétend monter les peuples contre les élites. Donc tout ça cadre mal avec le caractère raisonnable et rationnel que Rawls essayait d'incarner. Comment trouver dans, comme vous le faites dans votre livre, La démocratie et la raison, parce que c'est exactement le but de ce livre, comment trouver des arguments dans Rawls pour faire face à ces défis nouveaux, pour montrer qu'il n'est pas dépassé.
Alors là, une réponse possible est de dire que le projet rawlsien s'applique, comme vous l'avez très bien dit, aux institutions. C'est-à-dire qu'au moment de dessiner les institutions, ce qui est en jeu, c'est ce que Rawls appelle, avec des constitutionnalistes américains, le pouvoir constituant du peuple. C'est-à-dire le moment où le peuple assemblé décide de se donner une constitution, comme chez Rousseau avec le contrat social, où l'unanimité est requise. Donc là, effectivement, il s'agit de se mettre d'accord, donc d'utiliser des arguments recevables des deux côtés, de donner des raisons. Bon, ça c'est le moment, si vous voulez, de la politique du pouvoir constituant du peuple. Et puis, il y a le pouvoir ordinaire, c'est-à-dire la politique de tous les jours et la violence des affrontements entre partis et le fonctionnement de la démocratie, comme nous le voyons, qui est absolument... qui peut devenir absolument catastrophique avec la démagogie, populisme et autres, si vous voulez. Donc, si vous faites cette distinction entre la politique ordinaire et la politique constituante, et si vous placez la théorie de la justice du côté de l'élaboration de principes suprajuridiques, de principes qui vont inspirer une constitution, comme celle des États-Unis ou celle de l'Allemagne, eh bien, à ce moment-là, le caractère « raisonnable », entre guillemets, n'est plus aussi, n'est plus aussi utopiste. Si vous voulez, c'est certain que là, à ce moment-là, il s'agit de trouver des raisons que tout le monde puisse trouver recevables. Voilà. Alors, ce que je voudrais ajouter à notre débat, c'est l'importance du politique chez Rawls. On ne l'a peut-être pas assez dit. Vous avez beaucoup évoqué le principe de différence. Je vous rappelle que le principe de différence n'a de sens et ne peut s'appliquer qu'une fois les deux autres principes en place, en particulier la priorité des libertés politiques. Et là, je crois qu'il y a un élément très très important dans l'actualité de Rawls, c'est le fait qu'il est totalement conscient de l'importance de la captation du pouvoir politique par les élites économiques dans le capitalisme et surtout dans le monde actuel, comme on le voit un peu partout. Les plus riches, les plus avantagés, non seulement ont profité de la croissance économique, mais ont capté le pouvoir politique à leur profit. Et donc le problème, c'est de redonner du pouvoir politique à ceux qui sont les plus désavantagés. Donc si vous voulez, pour comprendre qui sont les plus désavantagés pour Rawls, il faut les comprendre non seulement du point de vue de leurs revenus et de leur situation précaire économique et sociale, mais du point de vue de leur accès au pouvoir politique. Et ça, c'est absolument crucial pour Rawls. Et je crois qu'on ne l'a peut-être pas assez dit. Et si vous voulez, le décalage extraordinaire qu'il a, dont il a été témoin dans les années 60-70, entre les droits théoriques des Noirs et l'absence de mise en pratique de ces droits, d'exercice réel de ces droits, était un désastre dont est partie la théorie de la justice, je pense. C'est une des origines de sa réflexion, certainement.
Mais là, il faudrait faire une nouvelle série d'émissions sur Michael Walzer et sur les sphères de la justice pour montrer à quel point le pouvoir économique peut se transformer en pouvoir politique et à quel point
Absolument.
C'est redoutable pour les démocraties.
C'est
peut-être quelque chose à suggérer à nos directeurs. Dernière question. Dans votre livre, j'ai remarqué qu'il y a une insistance, vous me parliez à l'instant du caractère politique de l'œuvre de Rawls. On a beaucoup parlé de théorie de la justice et peut-être pas assez dans cette série d'émissions du libéralisme politique. Il y a un livre beaucoup plus politique, celui-ci. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans votre livre, Catherine Audard, c'est l'insistance avec laquelle vous parlez de la stabilité. Que Rawls avait véritablement envie, besoin de conforter la démocratie, notamment en réconciliant les citoyens avec leur système politique. D'où la référence à Hegel, qui est dont il fait
Absolument.
Un libéral. Là, il y a quelque chose d'intéressant, parce que regardez à quel point aujourd'hui nos institutions démocratiques sont mises en cause par la rue, par des mouvements sociaux plus ou moins violents, à quel point l'idée même de représentation est mise en cause par le populisme. Là encore, est-ce que dans Rawls, vous pouvez trouver des éléments de défense de nos institutions démocratiques, de la démocratie parlementaire et représentative mise en cause à nouveau aujourd'hui
oui.
comme dans les années 30 ?
Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'a énormément intéressé, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est l'idée de raison publique qu'on trouve aussi chez Habermas, c'est-à-dire la vitalité de l'espace public qui est un espace d'affrontement, et bien sûr, et de division, mais qui est aussi un espace pluraliste, c'est-à-dire que il ne faut pas s'imaginer que la stabilité des démocraties va venir d'une homogénéité dans la façon de penser, dans les croyances. Ça, c'est une aberration, c'est quelque chose qu'il faut vraiment abandonner. Il faut comprendre la survie des démocraties autour non pas de systèmes de valeurs partagés, mais autour de principes de vie collective, autour de normes collectives. Et ça, c'est absolument crucial. Et j'ai beaucoup travaillé sur cette question de la raison publique, en particulier la façon dont les groupes de musulmans au Royaume-Uni ont réussi à rentrer dans l'espace public et à faire entendre leurs revendications, par exemple, qui étaient des revendications tout à fait particulières de communautés minoritaires, et qui sont devenus partie prenante du débat législatif jusqu'au moment où la loi de 2006 a été votée sur la discrimination, si vous voulez, religieuse. Donc, là, pour moi, la clé de la survie des démocraties en ce moment, c'est l'espace public, c'est la qualité et la vitalité de l'espace public et de l'exercice de la raison publique. Voilà. Et là, je crois que ce qui se passe en ce moment est tout à fait illustre. Tout à fait le problème, bien sûr.
Eh bien, c'était Avoir raison avec John Rawls, cinquième et dernier épisode. Merci à Catherine Audard que nous venons d'entendre. Je rappelle le titre de votre livre de défense de John Rawls qui s'appelle La démocratie et la raison. C'est paru chez Grasset. Merci à vous, Magali Besson. Je vous retrouve moi-même à la rentrée dans le Tour du monde des idées. D'ici là, bonnes vacances.